Vous le savez donc, lors de son dernier repas pris avec ses disciples, Jésus offre du pain et du vin et il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». En général, on entend ça comme l'institution d'un rite qui sera appelé sacrement et particulièrement important dans nos églises, rite fondamental, central, et on comprend cette parole comme l'invitation à répéter ce geste indéfiniment, ce geste nous disant la grâce de Dieu offerte à tous. Mais la question que je me suis posée, d'une façon un peu impertinente, c'est donc très bien, nous consommons régulièrement des communions, mais finalement comment ça marche? C'est-à-dire pourquoi est-ce que la communion nous fait du bien et à quoi ça sert de communier dans les églises? La signification et l'interprétation de cette communion, il y en a plusieurs. Il y en a un certain nombre que je n'aime pas, donc je vais commencer par là, ça me donnera de la liberté pour vous parler d'autres choses après. La première, c'est celle que j'appellerais l'interprétation de la scène comme médicament, c'est-à-dire comme quelque chose que l'on mange, et si on le mange, ça fait du bien parce que ça rentre dans le corps comme un médicament. Et en effet, dans cette optique, on dit que c'est par les paroles de l'officiant que le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. Et du coup, si on mange ce pain et ce vin qui sont corps et sang du Christ, on met automatiquement le Christ en nous, donc la présence de Dieu en nous. Et la présence de Dieu en nous, c'est une énergie atomique, bien sûr, qui transforme notre vie. Ça donne la présence réelle, l'efficacité, la puissance de résurrection et de vie de Dieu qui se trouve mise dans ces espèces, et quand on les ingurgite, eh bien, le principe actif de Dieu se libère dans notre corps et nous transforme. Alors évidemment, dans cette optique, ça donne la nécessité de pratiquer régulièrement, c'est-à-dire que si vous voulez avoir cette présence réelle de Dieu qui transforme votre vie, il faut prendre ce médicament au moins une fois par semaine, donc il faut aller à l'église. Vous le savez que les réformateurs se sont un peu distancés par rapport à cette lecture des choses. Et eux, ils ont dit, mais en fait, la présence réelle de Dieu, elle ne se trouve pas tant dans le fait de consommer du pain ou du vin, mais elle se trouve dans l'Écriture, c'est-à-dire dans l'Évangile. Et du coup, si vous voulez avoir cette puissance vivifiante de Dieu dans vos vies, eh bien, ça n'est pas la peine d'aller consommer des Eucharisties ou des Saintes Cènes. Lisez l'Écriture. Lisez l'Évangile, et dans cet Évangile, vous aurez toute la puissance de Dieu qui transformera votre vie. Ça a été une révolution, parce que pour manger une communion, vous êtes obligé d'aller à l'église. Mais pour lire la Bible, vous pouvez le faire chez vous, et donc vous pouvez éviter d'aller au culte. Je ne le recommande pas, mais néanmoins, c'est pourquoi les protestants considèrent que finalement, on peut avoir la présence de Dieu à domicile et que dès le moment qu'on lit la Bible, on a la plénitude de la présence réelle de Dieu et que la participation au rite de l'Église n'est pas indispensable. Bon. C'est pour ça d'ailleurs que dans nos églises à nous, même nous évitons de mettre la communion à chaque dimanche. C'est justement pour dire, on aime bien la communion, mais on peut s'en passer puisque l'essentiel n'est pas là. Mais alors, me direz-vous, si on peut s'en passer, pourquoi le fait-on quand même? Alors là, c'est compliqué parce que on a dit beaucoup de choses là-dessus, et en particulier, on entend dire que pour les protestants, finalement, la communion n'est pas grand-chose, parce qu'on dit que pour eux, c'est uniquement quelque chose de symbolique. C'est plus ou moins vrai. Ça a été vrai pour le réformateur Zwingli, c'est pas tout à fait vrai pour Luther et pour Calvin. Mais pour moi, oui, je dirais, oui, la communion, c'est symbolique. Et effectivement, le pain est le symbole de la présence du Christ, le vin est le symbole de son sang, et que par conséquent, c'est vrai, je crois que pour moi, ce pain et ce vin sont des symboles. Il n'y a pas autrement dit de réelle présence du Christ ou de Dieu dans le pain, et le pain c'est du pain, mais c'est symboliquement que ça représente cette présence de Dieu. Mais je vous dirais que ça n'est pas parce qu'une chose est symbolique qu'elle est sans signification, et qu'un symbole peut être extrêmement puissant. Et même parfois on nous dit, tenez, ah ben oui, chez vous les protestants, il n'y a pas la présence réelle. Je crois que c'est faux, Et je crois qu'il y a, pour nous, Dieu est réellement présent dans cette communion et dans ces espèces que nous partageons. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que, par exemple, si je vous montre une photo de moi, je vous dis, voilà, ça c'est moi. Alors vous me direz, mais est-ce que c'est vraiment vous? Je dis, oui, c'est réellement moi. Alors vous me direz, mais c'est réellement vous, oui, mais en même temps, c'est moi sans être moi. Parce que la photo, c'est moi, mais moi, je ne suis pas une photo et la photo n'est qu'un bout de papier, si vous voulez. Donc il y a néanmoins une distance entre la photo et moi-même. Mais cela dit, les symboles sont quand même très puissants. Tenez, par exemple, lorsque, après je ne sais plus quelle guerre, il y a quelque temps, des États-Unis contre des pays d'Orient, de Moyen-Orient, des Palestiniens, devant les caméras, en cercle, brûlaient un drapeau américain. Certes, c'est un symbole, mais ils ne font pas que de brûler un bout de tissu. C'est l'Amérique entière qui est attaquée par ce geste. Et donc, le symbole est extrêmement fort. Et puis, de même, si je vous dis « cette photo, c'est moi », bon, si ensuite vous prenez une photo de moi et qu'après le culte, parce que vous n'êtes pas content de ce que j'ai dit, vous vous réunissez à 10, vous vous mettez en cercle, vous jetez ma photo par terre, et là vous crachez dessus, et vous la piétinez, eh bien c'est pas une photo que vous piétinerez, c'est bien moi. Mais inversement, si ma photo tombe par terre et qu'un passant marche dessus sans intention, c'est pas moi qui le piétine, c'est une photo. Et donc c'est très compliqué. Vous voyez, ce pain et ce vin sont le corps et le sang du Christ en fonction de l'intention et de la manière avec lesquelles on les regarde. Et ils le sont sans l'être. Et ça me fait penser à, vous savez, ce célèbre tableau de Magritte. On voit une pipe, et il y a écrit en dessous, « Ceci n'est pas une pipe ». Alors c'est très compliqué, parce qu'on a envie de lui dire, « Mais si, c'est vraiment une pipe, ça se voit tout de suite ». Mais on va dire, en même temps, c'est pas une pipe, puisqu'on ne peut pas mettre du tabac dedans pour la fumer. Donc c'est une pipe sans être une pipe. Eh bien, ce pain est le corps du Christ, sans l'être, mais il l'est quand même, comme le tableau est quand même une pipe. Et c'est pour ça que, vous savez, les liturgies, on les écoute sans y faire trop attention, mais ce que je vous dis est très important parce que ça explique une chose essentielle. Si vous allez dans une messe catholique, dans l'Eucharistie, au moment de ce qu'on appelle la prière d'épiclèse, c'est-à-dire d'appel à l'Esprit, le prêtre invoque le Saint-Esprit sur les espèces pour que le pain devienne corps du Christ et que le vin devienne sang du Christ. Dans la liturgie protestante, il y a aussi une invocation à l'Esprit, prière d'épiclèse, comme on dit, mais le Saint-Esprit n'est pas invoqué sur les espèces, mais sur l'Assemblée. Et on dit « Envoie sur nous ton Esprit pour que pour nous, ce pain devienne corps du Christ ». C'est-à-dire que c'est justement, je dirais, une présence réelle dans la façon avec laquelle on le regarde et que du coup, effectivement, pour celui qui communie, au moment où il communie, quand l'Assemblée est réunie comme ça, le pain est le corps du Christ et le vin est le sang du Christ. Et je peux dire, tiens, mange, c'est le corps du Christ. Alors oui, c'est un symbole et en même temps, c'est un symbole magnifique parce que manger ce pain, du coup, c'est un geste pour dire que l'on veut mettre en soi la force de Dieu, la présence du Christ, qu'on veut mettre le Christ en soi. Et je crois qu'il y a dans le Christ une vraie force et une vraie source de joie, comme dans nos liturgies aussi qui disent « comme ce pain donne la force à notre corps et ce vin donne la joie à notre esprit », eh bien, nous voulons dire que nous voulons mettre en nous tout ça, toute cette réalité du Christ, toute cette puissance de résurrection, cette puissance de guérison, cette puissance de vie, de tendresse, d'amour, de pardon, on veut le mettre en soi pour que cela vive en nous et que cela nous transforme. Et ça, c'est assez beau parce que, finalement, le culte protestant est très intellectuel. Donc on écoute, on lit, on comprend, on réfléchit, on questionne. Et il est bien qu'à un moment donné, on vive cela autrement que par l'intelligence, mais aussi avec son corps. Donc finalement, la communion, c'est un moment où, j'allais dire, on arrête de penser et on dit « Oui, Seigneur, viens simplement en moi pour me transformer de l'intérieur. » Et pour une fois, on vit, je dirais, la bonne nouvelle de l'Évangile avec toutes ces facultés. Et puis, ce n'est pas tout, parce qu'il y a, une autre dimension dans la communion qui est très importante, qui est la dimension humaine. La communion, en effet, c'est aussi, certes, c'est communier avec Dieu, C'est le mettre symboliquement en soi, très bien, mais c'est aussi communier les uns avec les autres, autour d'une même source. Et ça, je trouve que j'aime beaucoup cette habitude protestante, au moment de la communion, de faire un cercle autour de la table ou de l'église et de partager comme ça le pain et le vin. Je trouve que ça a beaucoup de sens, plus que celui de faire un simple défilé où on serait simplement face à l'autel, face au cœur, face au prêtre ou au pasteur, comme si on communiait uniquement avec Dieu, mais on communie aussi les uns avec les autres. Et ça, je trouve que c'est essentiel parce que, certes, nous avons besoin de l'aide de Dieu, mais nous avons aussi besoin d'amitié, de relations, d'amis autour de soi. On a besoin de chaleur, de communication, et on ne peut pas être tout seul, autrement dit. Et c'est d'ailleurs, je dirais, un des sens du fait de venir au culte, puisque le culte, vous pourrez le réécouter sur YouTube tout à l'heure, dans votre lit, vous n'avez pas besoin de venir. Mais ici, on est avec d'autres, donc finalement, la dimension communautaire est quelque chose qu'on ne peut pas avoir sur Internet ou en lisant ensuite le sermon sur un papier. C'est justement cette dimension de la communauté et de la fraternité. Et ça, j'aime aussi parce que je crois que nous avons tendance à trop l'oublier, cette dimension-là. Vous savez qu'au début, dans les débuts du christianisme, les repas saints, la Sainte Cène, ça n'était pas un simulacre de repas comme ça, avec un petit morceau de pain sec et une gorgée de mauvais vin, mais les premiers chrétiens faisaient un banquet. C'est-à-dire qu'ils dressaient une grande table, et là, ils mettaient à profusion des pains, ils mettaient des jambons, ils mettaient, enfin, peut-être pas des jambons s'ils étaient juifs, mais en tout cas, ils mettaient des tas de choses à manger, des bonnes viandes, ils mettaient du vin, ils mettaient des tas de choses, et puis simplement, avant de banqueter ensemble, au moment d'ouvrir le pain, ils disaient, frères et sœurs, nous le faisons en mémoire de Jésus-Christ. Autrement dit, c'était la communion fraternelle avait un sens premier dans l'affaire, et on appelait ça des agapes. C'est-à-dire justement le repas de l'amour, si vous voulez, de l'amour de Dieu qui est présent avec nous et de l'amour des frères et des sœurs. Et je trouve que ça, c'est merveilleux parce que cela montre effectivement que pour nous soutenir, certes, nous avons la présence de Dieu, mais on a aussi la nécessité d'avoir autour de soi une communauté, d'avoir des amis, et aussi de bien manger, de bien boire, enfin de se faire plaisir, quoi, après tout. Et cette religion primitive me plaît beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on a trop peut-être dissocié les deux. Et donc, les protestants n'ont rien arrangé par leur austérité. Et donc, on dit, écoutez, je ne veux pas trop savoir ce que vous faites avec vos amis, mais si vous venez ici, on va faire le minimum, on va juste prendre un tout petit peu de pain et un tout petit peu de vin. C'est comme si on vous disait que pour vous faire plaisir, eh bien, nous allions manger une arête de poisson. Et la chair, on ne la met pas. C'est-à-dire qu'on a gardé que la dimension religieuse, comme si le religieux pouvait être dissocié de l'amitié, on pouvait être dissocié de la dimension humaine et de la relation avec les autres. Et là, il ne faut pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il dit l'essentiel, il dit les deux commandements, tu aimeras Dieu tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Eh bien, il faut que dans nos cultes, il y ait les deux. J'aime Dieu et j'aime mon prochain. Donc oui, j'écoute l'évangile, j'écoute la prédication, je prie notre Père et je partage aussi avec des frères et des sœurs. Et en ce sens, lorsque parfois, après nos cultes, on fait un repas fraternel, je dirais que le repas fraternel qu'on fait après le culte fait partie de la liturgie, en quelque sorte. On est encore dans le culte, ou le moment à la sortie du culte, quand le matin, le soir, ça ne s'y prête peut-être pas, mais les gens discutent amicalement sur le trottoir, eh bien ce moment d'amitié fait partie du culte en quelque sorte. Alors donc voilà cette communion, je dirais horizontale, qui est une dimension essentielle de ceux qui participent au même geste, qui communient à la même coupe, au même pain, et qui disent nous partageons ensemble une conviction qui est que notre Seigneur Jésus-Christ est une nourriture fondamentale pour notre vie. Eh bien, cette dimension horizontale est importante et il faut que dans la communion, il y ait les deux, c'est-à-dire il y a le vertical et l'horizontal, ce qui fait comme la croix, vous savez, le vertical de la relation avec Dieu et l'horizontal de la relation humaine. Et on est bien équilibré dans sa foi que si on est au cœur de la croix, c'est-à-dire entre le spirituel et le terrestre, entre Dieu et mon prochain, entre je dirais, le retrait du monde et l'engagement du monde entre l'ascétisme et aussi le fait de profiter du monde. Et il faut arriver à trouver le point de jonction entre ces deux dimensions. Alors ainsi, vous voyez que cette communion devient un geste extrêmement riche et important, et qui est peut-être aussi plus important qu'on ne pense. Parce qu'en effet, j'en viens à mon dernier point, qui est que on enseigne en général, ou plutôt si on demande, je vais vous dire ce qu'on dit de la communion des protestants dans les séminaires de l'Église catholique romaine. On enseigne aux prêtres que pour les protestants, la communion, c'est peu de chose, parce que ça n'est qu'un mémorial. Voilà, ça c'est ce qui est dit. Donc on dit pour les protestants, la communion n'est qu'un mémorial, et donc c'est un geste sans grande importance, juste pour se souvenir du dernier repas de Jésus-Christ. Bon, je ne sais pas, c'est vrai que ce sont quand même les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait ce repas et qui dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Mais est-ce que cette communion n'est qu'un mémorial ? On peut le dire, évidemment, il y a une dimension mémorielle là-dedans, c'est-à-dire qu'on rappelle, on veut se rappeler que Jésus-Christ a fait ce repas, se rappeler qu'il a donné sa vie pour nous, et la communion peut être une façon de se rappeler cela, et que la communion serait une sorte de moyen mnémotechnique pour se rappeler que Jésus est mort pour nous. Ça me semble effectivement bien faible, cette histoire. Et donc, je conteste. La communion n'est pas qu'un mémorial. La communion, c'est plus que de faire un nœud à son mouchoir pour se dire, tiens, je n'oublie pas que Jésus a fait un repas, il est mort pour nous. La communion, c'est plus que cela, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un geste de foi, c'est un geste d'appartenance à une communauté, et c'est beaucoup de choses. Mais en même temps, pourquoi disent-ils ça ? Je pense que ce qu'ils veulent dire par là, c'est que pour les protestants, ce qu'il n'y a pas, et qu'il y a dans l'Eucharistie catholique romaine, c'est la notion de sacrifice dans la communion. Et c'est vrai que pour nous protestants, la communion n'est pas un sacrifice. Vous savez que dans la liturgie romaine, au moment de l'Eucharistie, le prêtre dit « au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église ». Et là, en tant que protestant, je me dis, mais attendez, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, mais on n'offre pas de sacrifice. Il y a eu un sacrifice, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie en sacrifice pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il est mort pour nous, pour dire son évangile, pour témoigner de la puissance de la vie. Donc Jésus s'est sacrifié une fois pour toutes et il n'y a pas à refaire le sacrifice du Christ. Nous n'offrons rien. Jésus a tout offert, le sacrifice a été fait une fois pour toutes et il est valable pour l'éternité. Et donc oui, finalement, ils ont raison, ces bons enseignants du séminaire. Pour nous, la scène n'est que le mémorial du sacrifice du Christ. Ça c'est vrai, nous nous rappelons cette grande chose, mais nous ne faisons aucun sacrifice. Et d'ailleurs, c'est étrange parce que les protestants ne disent pas un autel, normalement. On appelle ça une table de communion. Parce que l'autel, ça fait effectivement un peu païen, c'est le lieu où on offre des sacrifices, finalement. Mais nous, ce n'est pas un autel, on n'offre pas de sacrifice sur un autel, on n'offre pas à Dieu du pain et du vin, on partage la présence du Christ. Et donc, effectivement, pour nous protestants, c'est une table de communion. Alors là, ma prédication va un peu à l'encontre de ce que vous voyez, puisque le pasteur Bercier, qui a construit cette église, était à moitié anglican, donc il a fait justement la table de communion comme un autel. Mais dans les anciennes liturgies réformées, du temps de la Réforme, les tables étaient des tables très simples. Et même, c'était pire que ça, c'est-à-dire que quand il n'y avait pas de communion, il n'y avait même pas de table, rien, la chaire au milieu et on prêche. Et quand il y avait une communion, il y avait deux conseillers presbytéraux qui arrivaient, qui mettaient deux tréteaux, une planche dessus, un drap, la coupe et le pain. C'est-à-dire que c'était uniquement, justement, une table, la plus simple possible, qui était dressée pour partager les symboles de la présence du Christ. Alors ainsi, effectivement, il faut essayer de comprendre ce que veut dire cette histoire de mémoire. ce mémorial, faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que ça n'est que de faire mémoire? Eh bien, je dirais que c'est peut-être plus que cela. Parce que d'abord, j'ai une question que je voudrais partager avec vous. Et je me demande si, en fait, depuis 2000 ans, on n'a pas interprété complètement à l'envers les paroles de Jésus. En effet, quand Jésus dit « Tenez, voici mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi », qu'est-ce qu'il faut faire en mémoire de Jésus? Depuis 2000 ans, les chrétiens ont compris qu'il fallait inlassablement manger le corps et le sang du Christ en mémoire de Jésus. Et c'est peut-être, à mon avis, tout le contraire, c'est-à-dire que Jésus, il dit, voilà, moi, je m'offre en sacrifice, eh bien, vous ferez la même chose en mémoire de moi. C'est-à-dire que Jésus donne un exemple et il nous demande de faire comme lui, en souvenir de celui qui a fait le premier geste. Autrement dit, il ne s'agit pas de répéter inlassablement un simulacre de repas, mais il s'agit de savoir que c'est à nous de faire comme Jésus a fait, nous souvenir que nous aussi, nous pouvons offrir notre vie pour les autres, comme le Christ a donné sa vie. Et donc, nous devons accepter aussi de boire cette coupe, comme Jésus a eu du mal à boire la coupe de la Passion. Il a dit, Seigneur, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi sans que j'en boive. Eh bien, si vous buvez cette coupe, ça veut dire que vous êtes prêt à vous associer au sort du Christ, et donc à vous dire, eh bien, tiens, moi aussi, je peux me sacrifier pour les autres comme Jésus s'est sacrifié. Ça, c'est assez cohérent, vous savez, parce que, par exemple, dans le lavement des pieds, quand Jésus lave les pieds de ses disciples, et il dit aussi après, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez la même chose. Autrement dit, Jésus lave les pieds, il nous demande, nous aussi, de laver les pieds des disciples. Il ne dit pas, faites-vous sans arrêt laver les pieds par les autres. Et donc, ou même quand il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Il ne dit pas « Moi, je vous ai beaucoup aimé, souvenez-vous de ça, et donc contentez-vous d'être aimé ». Mais il nous met dans une position active. Et ça, c'est vrai, hein, je crois que c'est ce que dit Paul d'ailleurs dans sa lettre aux Romains, quand il dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. C'est ça le culte raisonnable ». Et donc oui, nous pouvons, dans cette communion, ce n'est pas que de la consommation. Et c'est une volonté d'être envoyé en mission et de se dire, je me mets à la place du Christ et je dis au monde, eh bien, je suis prêt à donner mon corps et à donner mon sang. C'est-à-dire que je peux, moi, donner pour les autres, je peux accepter de boire cette coupe, et je peux accepter d'être acteur dans ce monde et d'en payer le prix. Et autrement dit, c'est un envoi en mission, une responsabilité qui nous est donnée. Alors évidemment, ça c'est assez fort et je dirais un peu angoissant, parce que je pense effectivement que le chrétien doit vivre sa vie en se demandant qu'est-ce que moi je peux donner au monde et qu'est-ce que j'offre aux autres, plutôt que de toujours se dire « qu'est-ce que je consomme ?». Ça, c'est le sens dans lequel l'Évangile nous invite à être, de voir sa vie par rapport à ce que l'on transmet, par rapport à ce que l'on donne, et non pas par rapport à ce dont on peut profiter des autres. Mais en même temps, c'est dur, parce que saurais-je avoir la force, moi, de donner, de me sacrifier? Eh bien, j'ai une réponse à cela. Et encore dans cette notion de mémorial, auquel je veux revenir, parce que, finalement, je l'ai rejetée tout à l'heure, mais elle est peut-être plus importante qu'il n'y paraît. En effet, quand on parle de mémoire et de mémorial, dans la tradition juive, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Parce que si vous réfléchissez bien, vous verrez que toutes les fêtes juives sont en fait des mémoriaux. Pâques, c'est pour se souvenir de la sortie d'Égypte. La fête de Soukhot, la fête des huttes, des tentes ou des cabanes, on dit aux Juifs, rappelez-vous, qu'à une époque, vos pères ont été dans une situation précaire et que là, ils ne pouvaient compter que sur l'aide de Dieu, eh bien, rappelez-vous une fois de temps en temps que vous aussi, vous devez mettre votre confiance en Dieu. Ou la fête de Pentecôte, qui est pour se rappeler du don de la loi. Et donc, toutes les fêtes juives, à chaque fois, il est écrit, « Tu te souviendras de ce qui s'est passé et tu le raconteras à tes enfants et à tes petits-enfants. » Et donc, autrement dit, quand Jésus fait un geste, et qu'il dit « faites ceci en mémoire », c'est pratiquement comme s'il instaurait une nouvelle fête juive, en quelque sorte. Et une nouvelle fête juive pour dire que l'événement qu'ils sont en train de vivre n'est pas un événement passé uniquement, mais c'est un événement fondateur qui est appelé à rester vrai de génération en génération. C'est-à-dire que la Pâque, justement, les Juifs disent, comme Dieu a libéré le peuple d'Égypte, il continue de nous libérer sans arrêt. Et comme Dieu nous a donné la loi, il continue de nous parler et de nous instruire. Et donc le Christ se donne comme fondateur, et faire en mémoire, c'est de dire, Jésus n'a pas simplement dit une bonne nouvelle pour les apôtres qui étaient autour de lui, mais ça reste vrai pour nous aujourd'hui, que le Christ est pour nous, par son pain et par le vin, par son corps et par son sang, une source de force, de vie et de joie. Donc vous voyez, il nous est beaucoup demandé, mais en même temps, on a le carburant et la force pour y arriver. Et c'est pourquoi je vous ai lu tout à l'heure ce beau texte de Jean sur le cep et les sarments. Quand Jean dit, on vous demande de donner du fruit et beaucoup de beaux raisins, mais tout seul, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez y arriver que si vous êtes branché sur le cep qu'est la racine. Et du coup, cette communion est une sorte d'envoi en avant dans une mission extraordinaire et qui contient en lui-même la source fondamentale de dire « Mais vous pouvez aimer parce que vous êtes aimé au départ, vous pouvez vous donner parce qu'on vous a tout donné et vous êtes invité à faire grâce parce qu'on vous a fait grâce ». Et donc il y a effectivement tout je dirais à la fois ce qui est demandé et ce qui est offert. Et je crois que, comme le dit Jésus, il dit « tout seul vous ne pouvez rien faire ». Et vous ne pouvez y arriver, dit Jésus, que si je suis en vous. Et nous ne pouvons arriver à faire quelque chose dans ce monde que si le Christ est en nous. C'est ça la communion, le Christ est en moi. Et avoir le Christ en soi, c'est la source même qui permet de pouvoir faire quelque chose et d'avancer dans ce monde. Alors comment peut-on dire que l'on a le Christ en soi ? Eh bien, si vous êtes un très très bon croyant, vous direz, je prends la communion et voilà, le Christ est en moi, ça me donne une force merveilleuse. Et c'est vrai que le Christ a témoigné de l'amour de Dieu pour nous, sa mort est une preuve de son amour, Christ meurt pour tout le monde, et effectivement le Christ est mort pour tous, pour les justes comme pour les injustes. Et c'est pourquoi je trouve essentiel que notre communion soit ouverte à tous, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune distinction. Et je ne dis pas, vous n'avez le droit de communier que si vous êtes baptisé, confirmé, instruit ou je ne sais quoi. La communion est ouverte à tous, parce que Jésus est mort pour tous les hommes, et pas seulement pour les baptisés, pas seulement pour les justes, pour tous. Et donc la communion, c'est justement de dire, la grâce est offerte à tous, et elle est ouverte. Sans jugement, tous nous sommes au bénéfice de l'amour de Dieu qui nous sauve. Et après, eh bien, nous devons cet amour le mettre en nous. Alors déjà, si on sait qu'on est aimé et accueilli, c'est une grande chose. Je crois que c'est le message de la scène, de dire vous êtes tous accueillis et reçus et tous vous avez un rôle à jouer, une place dans le cœur de Dieu. Après, si vous avez un esprit mystique, vous comprendrez si je vous dis vous pouvez faire de grandes choses si vous avez le Christ en vous. Dire oui, des gens ressentent ça, je dirais. Dieu est présent et Jésus c'est mon ami, il est dans mon cœur et si Dieu est en moi, là, cette foi, je dirais, affective est une source extraordinaire de joie, de confiance, de renaissance, de revitalisation, de guérison, d'espérance, de force. Cette tendresse que l'on peut ressentir dans la foi est une chose extraordinaire. Mais peut-être que vous n'êtes pas mystique dans ce cas, vous n'êtes pas exclu néanmoins de cette parabole du cep et des sarments, parce que il y a une autre manière de mettre le Christ en soi, c'est en pensant que toujours d'après l'évangile de Jean, Jésus est dit être la parole. Et donc mettre Christ en soi, c'est mettre ses paroles en soi-même. Alors vous pouvez effectivement dire, voilà, vous pouvez faire de grandes choses si Christ est en vous, c'est-à-dire si vous intériorisez ces paroles du Christ, l'enseignement du Christ et l'évangile, si vous le mettez en vous, si vous en faites votre nourriture, la base de votre existence, vous ferez de très grandes choses. C'est ce que j'explique à mes catéchumènes, et je leur dis finalement, l'évangile, c'est comme le système opérationnel des ordinateurs. l'OS des ordinateurs. Un ordinateur, ça marche que si on met dedans un système. Alors vous mettez PC, Word, Windows ou je ne sais quoi. Eh bien, l'évangile, c'est un système qui fait marcher l'ordinateur. Eh bien, le chrétien, c'est celui qui prend comme système l'évangile. Il se programme sur la base de l'évangile et c'est son cœur atomique, je dirais, qui organise son existence. Et donc, si on met l'évangile en soi, eh bien, on devient extrêmement puissant, je crois, une source formidable d'amour. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça que voulait dire Jésus, parce que là, il y a un petit jeu de mots encore qui vous échappe sûrement, mais quand Jésus prend le pain et il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps », ça, il ne l'a pas dit en grec, évidemment, il l'a dit en hébreu. Et donc, en hébreu, je connais trois mots d'hébreu, il a dit « Hine besari ». Sauf que si vous connaissez l'hébreu, le problème, c'est que « bassar », la chair, le corps, c'est le même mot que « besora », l'annonce ou l'évangile. Et donc « iné besari », ça veut dire « voici ma chair, mangez-la ». Ça veut dire aussi « voici ma bonne nouvelle, voici mon évangile, mangez-le ». C'est-à-dire qu'il faut se nourrir de la parole du Christ. Et quand il dit « buvez mon sang », c'est pareil, puisque dans la tradition rabbinique, le vin, c'est le symbole de la Torah. C'est-à-dire que la Bible, c'est le vin de Dieu. Et donc « mangez mon évangile, buvez ma nouvelle Torah ». Mettez tout cela en vous et vous aurez la force extraordinaire de pouvoir vous donner vous-même en sacrifice, comme je l'ai fait. Mais boire le vin, mettre en soi cette parole, c'est un travail intellectuel, comme on dit qu'on dévore un roman ou qu'on boit les paroles d'un orateur. Ça veut dire les mettre en soi, l'intégrer, en faire sa nourriture, sa force et sa joie. Et si on fait ça, alors Jésus devient une puissance créatrice à l'intérieur de nos vies, qui peut rayonner d'une façon merveilleuse. Donc voyez-vous, cette communion que nous faisons est un petit geste qui va bien au-delà de ce que l'on peut penser et qui peut signifier énormément de choses. À la fois communion avec Dieu, communion fraternelle les uns avec les autres, partage de la simplicité peut-être, partage d'une foi et d'une confiance en Jésus-Christ qui est notre nourriture. C'est aussi se rappeler la mission que Jésus nous propose et qui est de nous-mêmes nous donner au monde, et c'est aussi de savoir qu'on a en Jésus-Christ une source infinie, gratuite et inconditionnelle de force, de joie, d'amour et de grâce. Amen.